Comme hier, je vous propose d'introduire notre étude par la lecture d'un passage de l'Écriture et de le faire de la même manière en amenant une traduction et en l'assaisonnant de quelques commentaires. C'est un passage du livre d'Ésaïe. Dans la partie d'Ésaïe qui contient les prophéties du serviteur de l'Éternel de Yahvé, dont nous avons déjà dit un mot hier, à la suite d'un échange, que se trouvent les quelques versets que je voudrais considérer introductivement avec vous. Donc, au chapitre 48 d'Ésaïe, les versets 12 à 16. Outre les prophéties qui concernent le serviteur à venir du Seigneur, présenté au chapitre 42, ces chapitres du prophète concernent le retour de l'exil et l'œuvre libératrice de Cyrus le Grand, qui a permis le retour des exilés d'Israël dans leur terre, leur patrie. Seul un reste est revenu, comme l'avait annoncé Jérémie. Ils ne sont pas tous revenus, mais c'était conforme aux prédictions. Et au chapitre 48, donc, avec ces promesses de la venue de Cyrus, instrument du Seigneur, je lis au verset 12. Écoute-moi, Jacob, et Israël, alors assez littéralement, l'appeler de moi, mon appelé. La traduction habituelle, c'est celui que j'appelle, mais c'est un participe de caractère passif. En quelque sorte, la vocation divine donne son identité à Jacob Israël. Moi, lui, ou moi, celui-là. C'est une formule extrêmement intéressante qui revient à divers moments et vers la fin du Deutéronome en particulier, qu'il est difficile de traduire de manière littérale comme je viens de la traduire. Elle associe simplement deux pronoms. Le pronom personnel premier du singulier, je, moi, et puis ce qui peut être soit le pronom personnel troisième masculin singulier, soit le pronom démonstratif, celui-là. Je suis celui-là. La référence, le terme à partir duquel tout peut être jaugé, conçu, interprété, je suis celui-là. Cette référence ultime qui donne son sens à tout effort de pensée qui représente le vœu secret de tout cœur humain, etc., etc. Le sens peut être aussi, je demeure le même, c'est parfois la traduction que l'on donne, je suis celui-là que je suis toujours. Dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, donc la traduction dite des Septante, la Septante en abrégé, une traduction qui a été employée, c'est je suis. Comme le « je suis » de la révélation du buisson ardent, qui est la forme là du verbe « je suis », ces deux mots associés « je, celui-là » ont été traduits « je suis, moi, je suis » lorsque le pronom est utilisé en grec ou en hébreu, c'est avec une valeur emphatique quand on parle sans insister sur le pronom, contrairement à l'usage français, on l'exprime pas en hébreu ou en grec, avec une forme finie du verbe en tout cas. Et du coup, il y a une valeur d'insistance. Moi, je suis. Donc, c'est une affirmation de divinité. Référence ultime de plénitude d'être.
Moi, lui. Je, celui-là. Moi, premier.
Et moi, certes, ou, oui, une particule d'affirmation. Oui, moi, dernier. Vous voyez comment ce verset, quand on le traduit très littéralement, ce qu'on ne peut pas faire quand on cherche une traduction plus élégante dans les bibles qu'on imprime, prend du relief quand même. C'est extrêmement frappant. Donc, moi, celui-là, moi, premier, oui, moi, dernier. Oui, ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Moi, vous appelant, non, excusez-moi, moi, les appelant, moi, appelant à leur adresse, clamant à leur adresse, voilà comment on pourrait traduire, ils se tiennent debout tous ensemble. Apparemment, c'est une référence à la manière dont Dieu crée, puisque c'est l'affirmation de son rôle créateur, fonder la terre, étendre les cieux. Ils ont tenu, ils se sont installés dans leur être permanent, tous ensemble, comme un univers lié, à la simple voix du Seigneur, à son commandement, à son appel. Et moi, appelant, ils se tiennent tous ensemble. Rassemblez-vous, vous tous, et écoutez, qui parmi eux a fait connaître ces choses. Ce parmi eux n'a pas un antécédent évident dans ce passage particulier, mais d'après l'analogie de passages parallèles dans ces mêmes chapitres, il semblerait s'agir des faux dieux et de leurs prophètes, leurs devins, etc. C'est l'affirmation de la supériorité de Yahweh, l'Éternel, le Seigneur, par rapport au Dieu des païens, que le thème de la prédiction accomplie sert dans ces chapitres. Donc, ici, tous les peuples sont convoqués, et aussi tous les Israélites, qui doivent se rassembler. Aucun des dieux païens n'a prédit les choses qui se passent. Et donc, Dieu dit, qui parmi eux, les idoles et leurs serviteurs, n'a fait connaître ces choses. Le Seigneur, Yahvé, éternel, l'aime, il accomplira son dessein contre Babel, contre son bras, les Chaldéens. Le Seigneur l'aime, apparemment, c'est une manière de désigner Cyrus. Il a été choisi, mais par Cyrus, par l'Éternel, comme son instrument, et il accomplira le dessein de Dieu contre Babylone, Babylone, on a laissé le même nom dans l'Ancien Testament. Alors, le texte, tel qu'il est pointé par la tradition hébraïque, dit son bras. Il faut savoir cependant que les voyelles des textes hébraïques ont été rajoutées, selon la tradition, bien plus tard, bien après le Nouveau Testament, que c'est une tradition digne de respect. La tradition des spécialistes hébraïques qu'on appelle Massorète, mais que ce n'est quand même pas une part du texte le plus ancien avec les témoignages que nous en avons. Et qu'il est permis d'envisager d'autres ponctuations, d'autres vocalisations des textes bibliques tels que nous les avons dans les manuscrits les plus anciens. Dans beaucoup de cas, il n'y a aucun doute. Hein. On se rend très bien compte des voyelles qui devaient accompagner les consonnes quand on connaît les mots. Mais dans certains cas, il peut y avoir une hésitation. Et dans le cas présent, il peut y avoir une hésitation. Si vous lisez Zoro, comme c'est dans la ponctuation, la vocalisation de cette tradition hébraïque, ça veut dire son bras. Alors ça veut dire sa force, contre Babylone et sa force. Mais vous pouvez lire aussi Zago, les mêmes consonnes dans les manuscrits, aucune différence. Vous pouvez lire Jargeau, ça veut dire sa race, sa postérité. Et c'est comme ça que la traduction grecque ancienne qui a été faite bien avant que les voyelles soient rajoutées par écrit aux manuscrits anciens par les spécialistes traditionnistes juifs, dans la version de la Septante, les consonnes ont été lues sa race, la postérité. Beaucoup de commentateurs modernes choisissent ce sens-là. Je cite ce détail aussi pour répondre un peu à la question qui avait été posée hier à propos de ces questions textuelles qui troublent parfois certains. Vous voyez, c'est ce genre de situation qu'on trouve. Ça ne pose pas de problème en théologie. Cyrus agit contre Babylone, contre sa race, contre sa force. Et on peut décrire les Chaldéens soit comme la race qui occupait Babylone et y avait le pouvoir, soit comme ceux qui constituaient sa force. Donc il s'agit de l'œuvre de Cyrus le Grand, qui a pris Babylone, qui venait donc de Perse, qui avait fédéré sous son commandement les Mèdes et les Perses, et constitué donc la force la plus efficace du Moyen-Orient de l'époque, et qui a pris Babylone en 539 avant Jésus-Christ, et a rendu possible le retour des exilés d'Israël à la suite de cette conquête. Donc, ici, il est présenté comme annoncé d'avance par le Seigneur et choisi par lui, exécutant le dessein de Dieu contre Babylone, qui avait fait captif les Judéens, et de telle sorte que le dessein de Dieu allait s'accomplir. Moi, j'ai parlé, oui, je l'ai appelé, je l'ai fait venir, et il a fait prospérer, fait réussir sa voie. Il a réussi dans son entreprise, vous voyez, je traduis très littéralement. Donc le Seigneur affirme que c'est lui qui a appelé Cyrus, et qui lui donne la victoire, qui lui permet de réaliser toutes ses conquêtes. Puis le verset 16, « Approchez-vous de moi, écoutez ceci, depuis le commencement, depuis l'origine, depuis le commencement, ce n'est pas en cachette, en secret, que j'ai proclamé, que j'ai parlé, depuis le temps de son être, là, moi, vous remarquez à quel point le moi revient et revient dans ces quelques versets, l'affirmation de Dieu, ça se trouve aussi dans d'autres chapitres de ce même ensemble d'Ésaïe. C'est une marque de l'auto-affirmation divine très, très impressionnante. Mais ici, donc, depuis le temps de son être, là, moi. C'est un peu énigmatique, il faut le reconnaître. Son être, l'être de qui ? Le suffixe est féminin, son être à elle. Or, il n'y a aucun antécédent immédiat, très clair, qui soit du féminin dans ces versets. Seulement, le féminin en hébreu sert de substitut au neutre dans les langues qui ont un genre neutre. Donc, ça peut vouloir dire ça, la chose. Depuis l'être de cette chose. Alors, à quoi ça se réfère? On ne peut pas être tout à fait sûr, à mon avis, mais probablement à ces événements dont il est question, à toute cette réalisation de l'histoire, depuis le commencement de tout ce processus qui accomplit le dessein du Seigneur, moi, là. Je n'ai pas parlé en secret, en cachette, d'une manière ésotérique, pourrais-je paraphraser. Donc c'est celui qui a fait cette prédiction, semble-t-il, qui le dit. Et maintenant, le Seigneur Yahvé, le Seigneur éternel, le Seigneur, m'a envoyé et son esprit. Qui parle ? Il semble difficile qu'avec cette solennité, cette affirmation d'une présence
Là, moi.
Depuis le début, nous ayons une simple parole du prophète comme telle.
Alors, qui parle?
Un grand commentateur du 19e siècle, Joseph Addison Alexander, qui enseignait à Princeton, disait c'est le Logos qui parle. C'est le Logos, Dieu, comme celui qui se révèle,
la parole.
Et donc c'est le Logos que nous entendons ici s'exprimer. Bon, il me semble que introduire la pensée du Logos dans le livre d'Ésaïe, c'est quand même un petit peu prématuré, c'est un petit peu rapide par rapport à la maturation du thème biblique, du Verbe divin, qu'on ne trouve vraiment clairement développé que dans le Nouveau Testament. Alors je cite un peu, à suivre, simplement Alexander. Mais je crois que ce pourrait bien être le serviteur. Le serviteur, car il n'y a pas seulement les grands passages du serviteur dans ces chapitres, quatre grands passages bien identifiés. Je crois pouvoir montrer qu'il y a aussi quelques autres références plus brèves, en particulier 51-16, où c'est le serviteur qui est en cause, cet instrument futur de la libération d'Israël que Dieu annonce, et qui est présenté comme intimement uni à Dieu lui-même, ce qui fait que je propose de comprendre ici que c'est le serviteur qui parle, qui affirme sa présence, sa préexistence, tout au long, et qui parle de sa mission. Maintenant, le Seigneur éternel, Yahvé, m'a envoyé et son esprit. Ce qu'on appelle en théologie trinitaire les deux missions divines. La mission du Fils qui est le serviteur, selon le témoignage du Nouveau Testament, et la mission de l'Esprit. Nous avons en tout cas un texte de structure remarquablement trinitaire. Et c'est pourquoi je l'ai choisi comme introduction pour notre première session ce matin. Notre première session ce matin doit être consacrée à la vérification biblique des affirmations clés qui constituent la doctrine de la Trinité, triunité divine. Nous avons vu hier que si nous pouvons parler de Dieu, c'est que lui nous a parlé. Si nous pouvons affirmer sa triunité, alors que ce serait trop hasardeux pour nous de faire si nous n'avions que les événements de son intervention, c'est parce qu'il nous l'a dit lui-même, qu'il est à la fois 3 et 1, mais maintenant il faut le vérifier. Et il faut, comme les Béréens, qui ont sondé les Écritures, pour comparer au dire de l'apôtre Paul, il nous faut voir ensemble ce qu'il en est dans les textes. Alors bien sûr, on pourrait y passer des heures et des heures. En fait, quand j'ai donné certains cours sur le sujet, j'y ai passé des heures et des heures. Donc il va falloir que je comprime presque désespérément pendant l'heure qui vient maintenant pour cette partie-là. Mais je pense que ce peut être fait avec quelques profits, malgré l'abréviation, la condensation inévitable. Nous avons besoin de l'aide du Seigneur, alors je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, nous te louons parce que tu nous as parlé dans ta grâce. Tu as envoyé ton Verbe éternel pour que nous discernions ce qui est vrai de toi. Tu nous donnes ton esprit pour que nous n'errions pas trop dans la réception de ta parole. Nous te demandons de nous aider en effet ce matin pour que nous te rendions toute la gloire par la saisie exacte des choses que tu veux nous communiquer. Conduis-nous et réjouis-nous ensemble en ta présence. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Le dogme de la Trinité divine est une très haute vérité qui dépasse notre compréhension comme nous l'avons souligné. Mais c'est aussi un assemblage de propositions qui peuvent se dire dans un langage très simple. On peut dire que le dogme de la Trinité divine se résume en une série d'affirmations tout à fait claires et sans équivoque, dans, utilisant un vocabulaire tout à fait simple, et les voici. Il y a un seul Dieu. Le Père est Dieu. Le Fils est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Père n'est pas le Fils. Le Saint-Esprit n'est pas le Père ni le Fils. Et puis on peut ajouter à cet ensemble qui constitue, disons, le cœur du dogme de la Trinité, qu'il y a un ordre Père, Fils, Saint-Esprit. Ce point est contesté par certains théologiens, même de l'orthodoxie. C'est un point qui a été admis par l'immense majorité au cours des siècles des théologiens orthodoxes, et j'emploie le terme dans son sens général, pas de l'orthodoxie orientale particulièrement, mais catholique, protestant, évangélique. Mais il a été contesté par certains, et il l'est aujourd'hui. Alors c'est un élément, un ingrédient de l'ensemble qui constitue le dogme, que nous n'aurons peut-être pas le temps de traiter longuement, auquel je souscris pour ma part. Je pense qu'il faut l'inclure dans le dogme de la Trinité, mais sachez que le point est discuté. Alors ces diverses affirmations peuvent se réunir dans un schéma qu'on appelle, un petit dessin, qu'on appelle le bouclier de la foi, et je vais vous le faire dessiner rapidement au tableau. Bouclier de la foi, la forme d'un écu, hein. Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Vous voyez, c'est un peu la forme, c'est le dessin des boucliers d'autrefois. Vous écrivez sur les liens des trois petits cercles périphériques avec le cercle central est. Bon, originellement, c'est en latin, alors c'est est. Mais on va traduire. Le Père est Dieu. Le Fils est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Un seul Dieu, Père et Dieu. Mais le Père n'est pas le Fils. Le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Et le Père n'est pas le Saint-Esprit. Voilà la synthèse. De ces affirmations qui constituent ensemble le dogme de la Trinité divine. C'est très simple. Ce qui est difficile, ce n'est pas de le dire, c'est de le penser ensemble. Comment vérifier bibliquement qu'il en est bien ainsi, que le dogme de la Trinité divine ainsi résumé est bel et bien ce que Dieu nous révèle de lui-même? Je pense qu'on peut opérer la vérification à trois niveaux, de trois façons. La troisième, je pense que je vais manquer un peu de temps et que je serai obligé d'abréger, mais je la signale quand même. J'espère lui accorder au moins quelques minutes. Première façon de vérifier chacun des éléments qui constituent le dogme séparément. Deuxième façon, vérifier que le dogme, comme combinaison, est déjà suggéré dans les Écritures. Et troisièmement, montrer que la manière de penser de grandes doctrines fondamentales et ce qu'on peut appeler la métaphysique biblique requiert ce dogme, est tout à fait solidaire de cet ensemble d'affirmations. Voilà les trois façons dont l'Écriture me semble montrer que, qu'en effet, il y a un seul Dieu, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Père n'est pas le Fils, etc. Vous saisissez de quelle façon on peut procéder. Alors, les éléments du dogme, séparément d'abord. Je souligne que pour la démonstration du caractère biblique du dogme de la Trinité, cela suffit. Cette démonstration, qui est celle qu'on peut faire de la manière la plus probante, il n'y a pas de discussion possible à mes yeux, du moins, que cette démonstration est suffisante. La Bible n'est pas un manuel de théologie. Elle nous atteint, comme je l'ai dit, au niveau même où nous embarquons dans l'entreprise théologique. C'est ainsi qu'elle peut former notre pensée, mais ce n'est pas un manuel de théologie. Le travail de systématisation n'est pas accompli par elle, et donc il n'est pas nécessaire qu'une doctrine nous soit présentée dans son achèvement, dans son ordonnance synthétique, pour que nous disions qu'elle est biblique. Étant donné que l'Écriture est tout entière inspirée de Dieu, nous devons miser sur sa cohérence. Nous pouvons avoir cette confiance qu'il n'y a pas en elle de contradiction, d'hiatus, d'antagonisme insoluble, même s'il peut y avoir des antagonismes positifs, comme entre nos muscles, par exemple. On parle de muscles antagonistes dans un sens de complémentarité. Ça, c'est possible dans l'Écriture, mais non pas de choses qui soient incompatibles. Donc, si nous montrons que chacune des affirmations du dogme trinitaire est biblique, nous pouvons en conclure que leur assemblage, puisque toutes viennent du même Esprit de Dieu qui a inspiré les auteurs scripturaires, que leur assemblage est légitime et nécessaire. Et donc le dogme est suffisamment établi, même si nous n'avons pas de systématisation dans l'Écriture elle-même. Alors, c'est donc l'élément premier de la démonstration. Il y a un seul Dieu, monothéisme biblique. Je pense qu'assez peu d'entre vous, en tout cas, seront tentés de mettre en doute la présence d'un monothéisme net dans l'Écriture. Il semble que la politique pédagogique, si je peux m'exprimer ainsi, de Dieu, a été de commencer par l'affirmation massive, répétée, de cette affirmation, de cette vérité, un seul Dieu. L'homme dit naturel, dans son apostasie, a, semble-t-il, le plus souvent été polythéiste. Le polythéisme, c'est ce qu'on trouve à peu près partout dans le champ des religions. Et des pensées plus raffinées ont été généralement le fait d'une petite élite. Donc, il a fallu que Dieu commence par apprendre à son peuple d'une manière indélébile qu'il y a un seul Dieu, monothéisme. Je vais dire dans quelques instants que des éléments de pluralité sont aussi attestés dans l'Ancien Testament, mais la note qui nous frappe d'abord, c'est celle du monothéisme, qui est exprimé en particulier avec beaucoup de vigueur dans les chapitres d'Ésaïe, dont j'ai tiré notre lecture il y a quelques instants, excluant toute réalité des dieux des païens, se moquant d'eux et de ceux qui confectionnent leurs représentations, les idoles, ces dieux prétendus, Elohim, ne sont que des riens, Elilim, c'est un jeu de mots qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Un seul est le premier et le dernier, un seul est digne du titre de Dieu, un seul peut dire « moi, lui, moi, celui-là ». Cette affirmation est très très forte dans ces chapitres. Je ne crois pas, contrairement aux thèses de certains théologiens libéraux, ou biblistes libéraux, que l'affirmation monothéiste stricte est attendue le temps de ces chapitres pour se dégager en Israël. Elle a été soulignée à ce moment-là, mise en relief à cause des tentations que la défaite d'Israël, de Juda, l'exil pouvait comporter, le fait que les dieux païens semblaient avoir triomphé du dieu d'Israël, semblaient avoir été les plus forts, semblaient avoir montré une réalité plus consistante. Et il a été nécessaire de souligner particulièrement cette unicité et seule authenticité du Dieu d'Israël à ce moment-là, mais je pense, avec la tradition chrétienne, que cela est impliqué déjà bien auparavant, et en particulier dans la révélation à Moïse, et que le grand schéma d'Israël de Deutéronome 6 implique aussi ce monothéisme. Yahweh est le seul Yahweh. Vous savez que ce schéma d'Israël, écoute Israël, est répété dans les synagogues constamment. Le verset s'appelle d'ailleurs le verset témoignage. Dans les éditions hébraïques du Deutéronome, la dernière lettre du premier mot de ce verset et de son dernier mot, ici un aïn et ici un aleth, sont grossis. C'est une tradition typographique des éditions de la Bible hébraïque. Le dernier mot du écoute, je sais pas, et le dernier mot de Echad 1. Pourquoi ? Eh bien, parce que ça permet de lire ces deux lettres ensemble qui font et témoignage. C'est le verset témoignage pour tout le judaïsme. Donc, ce verset, on pourrait dire que en logique étroite, et je pense finalement myope et sotte, et en logique étroite, on pourrait dire que le verset n'affirme pas le monothéisme, puisqu'il affirme que Yahweh est le seul Yahweh. Yahweh, notre Dieu, Yahweh, littéralement. Alors, on pourrait dire, mais voilà, Yahweh, c'est le nom du Dieu d'Israël. Bon, c'est vrai, les autres dieux ne s'appellent pas Yahweh, donc il n'y a qu'un seul Yahweh. Je pense que ce serait une logique assez sotte, comme je viens de le dire, à cause des connotations de ce nom. Ce n'est pas un simple nom propre, comme n'importe quel dieu tribal a son nom propre. C'est un nom qui est porteur d'un sens qui est explicité lors de la révélation du buisson ardent, Exode 3. Je suis. Yahweh est interprété par la révélation de Dieu même à l'aide des formes du verbe être. Il semble qu'il procède du verbe être, de la racine du verbe être, ce nom Yahweh, et il est interprété comme je suis celui que je suis, celui que je serai, ça on peut en débattre, je suis que je suis, ou bien simplement abrégé, je suis. cette expression qui a été reprise dans le Nouveau Testament et en particulier dans l'évangile de Jean, précisément, mais là j'anticipe sur la suite de la démonstration pour Jésus. Les « je suis » de Jésus ponctuent l'évangile de Jean comme une affirmation que en lui s'accomplissent toutes ces significations qui ont été associées au nom Yahvé dans l'Ancien Testament. Monothéisme de ces passages, et il y aurait encore d'autres textes, la prière de consécration du temple par Salomon, et d'autres versets de l'Ancien Testament, mais c'est si peu mis en doute quand même pour le judaïsme en général, en tout cas dans la forme qu'il prend dès avant le Nouveau Testament, que le point clé pour nous, vérifiant la doctrine de la Trinité, c'est que cela demeure l'enseignement chrétien, que le Nouveau Testament affirme de même ce monothéisme, monothéisme strict. Il y a un seul Dieu. Vous le savez, c'est dit expressément dans le Nouveau Testament. Jésus le reprend dans ce débat. Nous avons une reprise dans la première à Timothée au chapitre 2. Il y a un seul Dieu et un seul médiateur, mais un seul Dieu sépare de l'enseignement chrétien. Ce n'est jamais remis en cause dans le Nouveau Testament. Ça ne fait pas de doute. Ce sont d'ailleurs des Juifs qui ont été marqués par l'enseignement monothéiste qui sont les apôtres, qui sont les auteurs du Nouveau Testament. Ça ne fait pas le moindre pli. Alors, je le souligne, à cause de certains théologiens d'aujourd'hui qui semblent l'ignorer, ou préférer l'oublier, à cause aussi du malentendu face à l'islam. Beaucoup ont l'impression que le monothéisme strict, en tout cas, il est du côté musulman et du côté du judaïsme rabbinique, parce qu'à côté du judaïsme rabbinique, il y a le judaïsme kabbalistique, par exemple, ésotérique, qui lui est beaucoup moins net. Hein. Mais bon, je laisse cela de côté au moins pour le moment. Beaucoup de gens ont l'impression que la doctrine de la Trinité implique une certaine concession quand même au polythéisme, que ce n'est plus tout à fait le monothéisme, et oppose alors au monothéisme musulman. Je crois que nous devons rejeter énergiquement toute suggestion dans ce sens. L'affirmation monothéiste stricte, un seul Dieu, est biblique, ancien, nouveau testament. Là, c'est le premier point. Deuxième vérité en cause, le Fils Jésus-Christ est Dieu. C'est sans doute le point clé dans tout le débat. Comme nous allons le voir, la distinction du Fils paraît difficile à nier, étant donné qu'il vient parmi nous comme Jésus-Christ. S'adresse au Père, dit le Père. La distinction est quand même très difficile à mettre en doute. Le point clé, c'est sa divinité. S'il y a un seul Dieu et qu'il est Dieu, alors on aboutira à la Trinité, on sera bien obligé d'affirmer qu'il y a en Dieu une différenciation. On n'aura pas encore la troisième personne, ce ne sera pas clair, mais le principe sera acquis. Certains ont pu dire que la Trinité, en fait, c'est une vérité qui concerne le Christ. À partir du moment où le Christ, qui est assez évidemment distinct, est Dieu même, alors nous avons assez bientôt dans la chaîne des conséquences à reconnaître la Trinité. Donc c'est le point capital. La divinité du Fils est-elle déjà établie dans l'Ancien Testament? Voilà une première question qu'on peut se poser. Ma réponse à cette question est une réponse un peu de normand, un peu trop nuancée peut-être au goût de certains, mais je pense que sur la base de l'Ancien Testament, il nous serait difficile de prouver la divinité du Fils. Que les choses ne sont pas révélées avec une clarté et une netteté telle que nous puissions considérer que la preuve est là. En même temps, c'est pourquoi je dis que ma réponse est nuancée, en même temps, il y a d'abondantes données dans l'Ancien Testament qui demeurent énigmatiques à son niveau, en tout cas il y a un degré d'énigmaticité, et qui ne s'éclairent, qui ne forment un tout cohérent et qu'on peut alors accepter avec joie, que lorsque la révélation est faite de la divinité de Jésus-Christ. Il y a des données, il n'y a pas seulement le monothéisme strict qui est inculqué, mais déjà des suggestions fortes qu'un autre est Dieu aussi dans l'Ancien Testament. Alors, il y a plusieurs lignes qui ne se rejoignent pas très clairement. Là aussi, il y a peut-être quelques suggestions, mais ce n'est pas très très clair. Plusieurs lignes qui vont dans ce sens dans l'Ancien Testament. Il y a une ligne par laquelle je commence, parce que je ne vais pas aller très loin, et je vais dire pourquoi. C'est celle qui concerne l'ange de l'Éternel, le messager de l'Éternel. Donc il est question dans un certain nombre de passages, surtout dans les livres les plus anciens, selon la datation traditionnelle, et les livres les plus récents dans l'Ancien Testament. Zacharie, par exemple. Dans plusieurs passages, il y a un personnage qui est appelé l'ange, mais le mot ange n'indique pas forcément une classe d'être. Le mot veut simplement dire messager, envoyé. Donc, ça n'exclurait pas la divinité. Dans plusieurs passages, il y a un ange messager de Yahvé qui semble s'identifier à lui. La révélation du buisson ardent, par exemple. C'est ce messager qui apparaît à Moïse, et manifestement, c'est Yahvé lui-même qui parle, et la terre est sainte, parce qu'il est là. Moïse doit enlever les sandales de ses pieds, etc. Vous savez, les passages sont assez nombreux dans ce sens. Et il est question de cet ange, ce messager, ayant le nom de Yahvé en lui. Il a mon nom en lui. Et si vous êtes rebelle, il ne pardonnera pas vos péchés. Prérogative du pardon, qui semble une prérogative strictement divine. C'est très impressionnant. Et les pères de l'Église, de manière vraiment presque unanime, très très large, ont considéré qu'il s'agissait du Fils. Un est distinct de Yahvé dans ces passages. C'est très attrayant. Pourquoi est-ce que je ne vais pas plus loin? Pourquoi est-ce que je n'insiste pas plus? Parce que curieusement, le Nouveau Testament n'en fait pas usage. Le Nouveau Testament ne reprend pas ces textes pour appuyer l'affirmation de la divinité de Jésus. Alors ça, c'est un avertissement. Attention! Peut-être ne le fait-il pas, parce que la tentation aurait été alors à ce moment-là assez grande de comprendre cette divinité dans un sens faible comme une divinité d'ange, au sens créaturel d'ange. Et pour éviter donc une interprétation de la préexistence céleste de Jésus-Christ comme finalement les Ariens, nous en parlons, l'ont pensé comme une super créature, le Nouveau Testament a peut-être préféré ne pas y recourir. Mais du coup, je reste plus là. Deuxième ligne, celle qui concerne le fils de David à venir, qui sera plus que simplement fils de David. Il y a des textes qui suggèrent, à mon avis, on ne peut pas dire que ce soit une preuve parfaitement nette, mais qui suggèrent très fort que ce n'est pas un simple homme qui va venir et qui va établir le règne de paix et de justice, le règne de Dieu. Je faisais allusion, par ma façon d'exprimer les choses, au psaume 110. C'est celui que Jésus lui-même a repris justement pour contrer l'enseignement qui excluait toute trinité, toute incarnation chez les docteurs juifs. David lui-même, au psaume 110, parlant du Messie à venir, son fils, il appelle son Seigneur. Le Seigneur, Yahvé, a dit à mon Seigneur, écrit David dans ce psaume. Jésus nous confirme qu'il s'agit d'un psaume authentiquement davidique. Le Père est plus grand que le Fils dans la pensée de l'Oriencé. Un père ne va pas appeler son fils, son petit-fils, arrière-petit-fils, son Seigneur. Si David appelle celui qui naîtra de sa postérité, son Seigneur, avec cession à la droite de Dieu, ça veut dire partage de la royauté de Dieu, exercice de la seigneurie, assis sur le trône de Dieu, assieds-toi à ma droite. Ça veut dire que ce Messie à venir n'est pas un simple homme, ou un de Dieu, mais simplement un homme. Il y a un mystère de sa personne qui va bien au-delà. Voilà, je crois, le raisonnement de Jésus. Et nous avons donc ce psaume 110, qui est un psaume très important. Et alors, il y a plusieurs passages, en particulier dans le livre d'Ésaïe. L'un des plus frappants, c'est celui du chapitre 9, où cet enfant de David est annoncé à l'avance. Un enfant nous est né, fils nous est donné. Il donnera une paix sans fin au règne de David, son père. C'est le Messie davidique à venir. Or, quel nom va-t-il porter? Quel nom va-t-on lui décerner? Conseiller transcendant, admirable, mais c'est un mot qui évoque ce qui est au-delà des possibilités humaines. Hein. Conseiller transcendant, Dieu héros. C'est la traduction littérale, dans l'ordre hébraïque. Ce n'est pas héros de Dieu, c'est pas comme ça que ça se dirait, ça se dirait dans l'ordre inverse. Et d'ailleurs, le terme est repris le chapitre ensuite pour Dieu. Le reste d'Israël retournera vers Dieu héros. Cet enfant est appelé Dieu héros. Et puis, Père d'éternité, et finalement Prince de la paix. C'est un quadruple titre, chaque fois deux termes. C'est quand même très, très impressionnant. Et ce qui prouve le mieux, peut-être, que c'est quand même très significatif et impressionnant, c'est à quel point la tradition juive a été gênée à essayer de retriturer le texte, de l'interpréter de diverses façons, tout aussi improbables les unes que les autres. C'est quand même un texte impressionnant. Alors je dis que ce n'est pas une preuve tout à fait formelle, parce que c'est un titre qui lui est décerné, alors dans quel sens exactement, mais c'est quand même une ligne très, très importante. Troisième ligne, qui a sans doute convergence, mais celle du Fils de l'homme, qui apparaît dans le livre de Daniel. Et je souligne cette ligne parce que c'est aussi vers ce passage que Jésus s'est tourné. Comment Jésus pouvait-il, si je vous dis, excusez-moi, coincer les théologiens juifs qui refusaient l'affirmation qu'il faisait de lui-même? Il leur montrait qu'il y avait deux passages de l'Ancien Testament qui ne pouvaient pas cadrer avec leur représentation de Dieu et de ce que Dieu pouvait faire. Il y avait le psaume 110, qu'il a cité devant le Sanhédrin, et l'autre passage devant le Sanhédrin, Désormais, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite. Venir sur les nuées, assis à la droite, c'est le psaume 110, et venant sur les nuées du ciel. Ça, c'est Daniel 7. Dans Daniel 7, dans la vision des animaux qui représentent les empires, vous avez quelqu'un comme un fils d'homme qui vient sur les nuées du ciel et qui reçoit l'empire universel. Il représente le peuple des saints du Très-Haut, mais je pense qu'il y a des arguments très forts pour montrer qu'il ne s'agit pas d'une simple personnification littéraire pour le peuple. C'est un être qui est de caractère céleste, qui vient du ciel et qui reçoit un règne éternel. Et Jésus a choisi ce titre, le Fils de l'homme, de préférence à d'autres qui étaient susceptibles d'être plus mal compris. Il a résisté, il y a eu des réticences lorsqu'on l'appelait Messie, parce qu'il savait les images associées à la notion du Messie. Mais il a choisi de s'appeler le Fils de l'homme, avec dans certains passages une référence claire à Daniel 7, et en particulier dans le Sanhédrin. Un être céleste, qui là aussi partage la seigneurie universelle avec Dieu même, l'ancien des jours, le Père éternel, est aussi très, très impressionnant. Il me semble difficile de nier que la présence, le rôle de ce Fils de l'homme a dû, parmi les Juifs pieux, être rapproché de la promesse messianique. Que la ligne du Fils de David, Dieu héros, et la ligne du Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, juge universel, ont pu être rapprochés, mais elles ne le sont pas de manière explicite. Express dans le texte. C'est pour ça que je dis que ça garde un caractère énigmatique. Est-ce que ce Fils de l'homme est le Messie ou est-ce qu'il ne l'est pas? On peut peut-être encore un peu hésiter à ce propos. Mais vous voyez la suggestion là d'un être céleste distinct du Père. Et puis quatrième ligne, celle de la sagesse personnifiée qui a beaucoup compté dans l'histoire aussi. C'est surtout au chapitre 8 du livre des Proverbes qu'on voit la sagesse personnifiée. Je compte cet après-midi lire le passage en introduction, donc je le développerai, je ferai quelques commentaires. Mais s'agit-il simplement d'une personnification littéraire? Les pères de l'Église, de manière quasiment unanime, ne l'ont pas pensé et ont cru qu'il s'agissait réellement du Fils. Dans cette sagesse qui participe à la création, qui a été engendrée avant toute création, par Yahvé. Je crois que nous ne pouvons pas éliminer l'usage d'un procédé de personnification, mais que si nous réfléchissons à l'audace que représente la personnification de la sagesse de Dieu, nous devons dire qu'il y a plus qu'un simple procédé littéraire. Il y a la suggestion d'une différenciation en Dieu qui, là aussi, prépare la pleine révélation de la divinité du Fils. Donc, plusieurs lignes dans l'Ancien Testament, et ce que nous voyons alors dans le Nouveau, c'est ces lignes qui convergent et se recoupent. Elles se rejoignent toutes en la personne de Jésus-Christ. Le thème du logos, du verbe divin, c'est une reprise de la tradition de la sagesse. C'est une façon d'unir le thème de la parole, parole créatrice, parole révélatrice, et le thème de la sagesse, comme il a été introduit déjà avec développement par le chapitre 8 du livre des Proverbes, et comme il a été retravaillé dans le judaïsme d'entre les testaments. Ce judaïsme intertestamentaire n'est pas canonique pour nous, mais il a compté dans l'histoire. Dieu a providentiellement guidé les choses Et dans le livre de la sagesse dite de Salomon, qui est un livre du 1er siècle avant Jésus-Christ, il y a une élaboration supplémentaire du thème de la sagesse personnifiée, et pourrait-on dire de caractère personnel, qui est avec Dieu, créatrice, et il y a des allusions indubitables, les mots même qui sont employés le montrent, à ce passage du livre de la sagesse, dans le prologue de l'évangile de Jean, dans le premier chapitre de l'épître aux Colossiens, et dans le prologue de l'épître aux Hébreux. Ce n'est pas, à mon avis, douteux qu'il y ait des allusions dans le Nouveau Testament. Jamais ce livre n'est cité comme écriture, jamais il est écrit. Mais les reprises de termes montrent que c'est un outil de travail, de réflexion, qui a été utile aux auteurs du Nouveau Testament. Donc, ces lignes convergent dans le Nouveau Testament. La ligne de la sagesse aboutit à la grande proclamation du Logos. Jésus revendique lui-même, donc, ses textes sur le Messie, fils de David, bien plus que fils de David. Il est le fils de l'homme. Et deux lignes dans le Nouveau Testament, alors, sont, me semble-t-il, la démonstration pourrait être faite très, très longuement, bien sûr, sont particulièrement impressionnantes quant à l'affirmation de la divinité de Jésus-Christ. Contrairement à ce qui est dit, pardon, vous suggérez qu'il y ait des questions qui se posent à cet endroit?
Je sens qu'il y a une articulation là, puisque vous avez parlé du Nouveau Testament et de la divinité de Jésus. Mm-hmm. Alors, soit on ouvre à des questions, soit on fait déjà une petite pause. Bon, que vous aimeriez?
Alors, je suggère que je dise ce que j'étais juste en train d'annoncer, les deux grandes formes d'affirmation de la divinité de Jésus-Christ, voilà, que je trouve extrêmement impressionnantes dans le Nouveau Testament.
Voilà.
Et puis, que nous ayons alors des questions qui puissent se poser à ce moment-là.
D'accord. Très
bien. D'accord. Voyez, ça ne me surprend pas, mais hélas, il va me falloir abréger par la suite beaucoup, étant donné la richesse de toutes les choses qu'on pourrait dire. Mais je vous communique donc ces deux points. Il y a surabondance de preuves de la divinité de Jésus-Christ pour le Nouveau Testament. Il y a de très bons travaux qui ont été faits d'ailleurs sur ce sujet. Mais il y a deux lignes que je veux particulièrement faire ressortir. Il y a un nombre limité, mais quand même substantiel, une dizaine de passages où il est appelé Dieu, où le titre Dieu, Théos, est appliqué à Jésus-Christ, et où il est appliqué plusieurs fois avec une référence, un élément de commentaire qui accroît encore la force de la preuve. Alors je cite quelques-uns de ces passages, je ne vais même pas tous les reprendre. Hein. Il y a le texte de Romains 9 où l'apôtre, protestant de son attachement à ses compatriotes selon la chair, à Israël, qu'il est accusé de trahir par ses adversaires, évoque tous les privilèges qu'il reconnaît comme appartenant à Israël selon la chair. Et il dit, c'est à eux qu'appartient l'adoption comme peuple, la loi, les patriarches, et ces deux suprêmes privilèges qu'est issu le Christ, pour ce qui est de selon la chair, si on paraphrase l'expression, marque bien cette distinction entre les natures, pour ce qui est du selon la chair, qui est Dieu au-dessus de tous, béni éternellement. Pas un petit Dieu avec une minuscule deuxième rang, qui serait en fait une créature. Dieu au-dessus de tous, béni éternellement. Très, très impressionnant. Autre passage aussi chez Paul dans l'épître à Tite, quand il dit que nous attendons la bienheureuse espérance, la manifestation de notre Dieu et Sauveur, du grand Dieu et Sauveur, notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Il y a deux raisons d'appliquer le grand Dieu là. Vous voyez, ce n'est pas un petit Dieu, c'est le grand Dieu à Jésus-Christ, dans ce verset de Tite 3. C'est d'une part la grammaire grecque. Alors, la règle ne s'applique pas toujours avec une rigidité totale. Mais en principe, quand il y a un seul article devant deux mots ensemble, c'est qu'il s'agit d'un seul et même objet. C'est du grand Dieu et Sauveur. Ce n'est pas du grand Dieu et du Sauveur. Donc le titre Sauveur s'applique à Jésus-Christ, mais aussi grand Dieu. Et la deuxième raison, alors, est plus générale. Il est question de sa manifestation comme l'objet de notre espérance. Et partout dans le Nouveau Testament, la manifestation qui est l'objet de notre espérance, c'est celle de Jésus-Christ. C'est la manifestation de Jésus-Christ. Il n'est nulle part question d'une manifestation du Père comme terme de l'espérance chrétienne. Donc, vous voyez, ça confirme. Donc, grand Dieu appliqué à Jésus-Christ. Et la fin d'un Jean 5 est aussi extrêmement remarquable. Comme il s'agit d'un passage qui a aussi rapport avec le sujet que nous abordions en fin de séance hier soir, le rapport à l'intelligence, je lis le texte. Verset 20, 1 Jean 5, 20. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence discursive même, c'est une petite nuance là dans le grec, afin que nous connaissions le véritable. Et nous sommes dans le véritable et dans son Fils Jésus-Christ. Celui-ci est le Dieu véritable et la vie éternelle. Ça fait partie aussi de ces expressions johannique dont j'ai parlé hier, du sens du paradoxe qui exprime la réflexion. C'est le Fils qui nous fait connaître le véritable Dieu. Nous sommes en lui et il est lui-même. Celui-ci est le Dieu véritable et la vie éternelle. De nouveau, cette expression Dieu véritable qui souligne la force avec laquelle le titre Dieu est appliqué au Fils. Il a encore deux raisons pour nous bloquer toute esquive de ce passage. Ce n'est pas le Père qui est désigné dans cette fin de verset 20 par l'expression celui-ci. D'une part, en grammaire grecque, de nouveau, c'est le démonstratif proche, donc ça s'applique au Fils. Et deuxièmement, même trois raisons. Deuxièmement, ce serait une tautologie. Personne ne doute que le Père soit le Dieu véritable. Donc, ça ne dirait rien de plus. Alors que là, c'est une affirmation de plus. Et puis, troisièmement, c'est le Dieu véritable et la vie éternelle. Or, tout le chapitre qui précède souligne que la vie éternelle est dans le Fils, que celui qui a le Fils a la vie. Vous voyez ? Donc, c'est une échappatoire que d'essayer de dire ce n'est pas le Fils. C'est vraiment celui-ci, le Fils, qui est le Dieu véritable. En même temps qu'il est le Fils du Dieu véritable. Donc, c'est une ligne extrêmement impressionnante. Deuxième grande ligne, l'usage du titre Seigneur. C'est beaucoup plus souvent que Dieu, Théos, le titre qui est utilisé pour Jésus-Christ, pour le Fils, dans le Nouveau Testament. C'est, on pourrait dire, le titre habituel pour lui. Or, même si le titre Seigneur est susceptible de toute une gamme de significations, il ne signifie pas toujours la divinité, il signifie la divinité et de la manière la plus forte dans nombre de cas, et en particulier des cas qui concernent donc Jésus-Christ. C'était la traduction ou l'équivalence utilisée couramment pour le nom Yahweh. Comme dans certaines de nos Bibles et dans la Nouvelle Bible seconde en particulier, les Juifs disaient « Seigneur » chaque fois qu'il y avait Yahvé dans l'Ancien Testament. Le Seigneur. C'était l'usage de la Bible en grec qui a été repris dans le Nouveau Testament. Or, c'est ce titre « Seigneur » signifiant Yahvé qui est appliqué à Jésus-Christ. Et que c'est bien dans ce sens éprouvé. C'est appliqué dans des citations de l'Ancien Testament appliquées à Jésus-Christ. À la fin de Philippiens 2, le titre de Seigneur, toute langue confessera que Seigneur est Jésus-Christ. Il s'agit d'une allusion à Ésaïe 45, où tout genou ploie et toute langue jure par Yahvé, Seigneur. Et ce n'est pas le seul exemple. C'est extrêmement impressionnant. C'est presque inimaginable. Moi, vraiment, il y a eu là un miracle de l'Esprit de Dieu que des Juifs, tellement marqués par le monothéisme exclusif que Dieu avait déposé dans l'Ancien Testament, mais qui du coup éprouvaient tant de difficultés à imaginer une pluralité quelconque en Dieu, aient osé appliquer des textes de l'Ancien Testament parlant de Yahvé à cet homme avec qui ils avaient bu et mangé, qu'ils aient osé l'appeler Seigneur en appliquant ces textes, mais ça montre avec quelle force la révélation de la divinité de Jésus-Christ s'était imprimée en eux. Et cela se retrouve dans de grands thèmes. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Depuis le jour de la Pentecôte, c'est le passage de Joël. Mais chez Joël, c'est Yahvé. Et ça devient à l'évidence le Seigneur Jésus dans tous les textes du Nouveau Testament. Nous attendons le jour du Seigneur Jésus. Mais c'est le jour de l'Éternel. C'est le jour de Yahvé, c'est les prophètes. Et ainsi de suite. C'est présent partout. Il y a une affirmation vraiment massive de cette divinité. Et il y aurait encore une multitude d'autres éléments. Et comme je l'ai dit, cela me paraît le cœur de la démonstration du caractère biblique du dogme trinitaire.